Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré à la gouvernance par les nombres en partenariat avec le quotidien La Croix et notre camarade Béatrice Bougnol. À l'ordre du jour ce soir, quels chiffres pour gouverner? Depuis hier et les annonces du ministre de la Santé Olivier Véran, nous assistons à une bataille de chiffres, on vient de l'entendre dans le journal, venant en particulier de la part des élus de Marseille et de sa région. Après tout, depuis 6 mois, chacun d'entre nous devrait être devenu spécialiste du taux d'incidence ou du taux de reproduction du virus Covid-19. Tandis que les chiffres des hospitalisations en réanimation et des tests positifs du coronavirus semblent piloter la politique sanitaire de nombreux pays, nous nous demanderons ce soir ce que le virus a accéléré ou changé dans le gouvernement par le nombre, auquel un de nos invités, Alain Supiot, a consacré de nombreux cours au Collège de France. Bonsoir Alain Supiot.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Avec nous également Nadia Maizi. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes mathématicienne, membre du GIEC et directrice du Centre de mathématiques appliquées de Mines Paris Tech. Et avec nous également Didier Blanchet, vous êtes économiste et directeur des études de synthèse et synthèse économique de l'INSEE. Bonsoir.
Bonsoir.
Et avec nous, je l'ai dit, Béatrice Bougnol, bonsoir à vous, la première question.
Bonsoir. Bonsoir Alain Supiot. Justement, Emmanuel le disait, vous avez enseigné au Collège de France la gouvernance par les nombres de 2012 à 2019. D'ailleurs, vous rééditez très récemment ce cours. En quoi la crise sanitaire que nous vivons maintenant depuis 6 mois illustre ce que vous avez pensé et enseigné sous cette expression de gouvernance par les nombres?
Je pense que l'une des manifestations les plus claires et les plus pédagogiques qu'on en ait entendues, c'est dans la bouche de personnel de santé qui, pour décrire la situation dans laquelle les a plongé le système de tarification mis en place par 2004, notamment d'ailleurs par Monsieur Castex, qui était à l'époque aux affaires, et puis ensuite élargi et généralisé, ce système, il le dénonçait en disant « on nous demande de soigner l'indice plutôt que le malade ». Cette formule dit beaucoup de choses. Elle dit d'abord la souffrance au travail, et elle dit aussi l'inefficacité de ce type de management qui croit pouvoir assurer une mission d'utilité publique sur le modèle d'une gestion d'entreprise et ne conduit qu'à désorganiser celle-ci. Alors, pour moi, c'est une des leçons de cette pandémie, c'est de montrer les limites et même les impasses de ce type de gouvernance.
Oui, alors évidemment, on peut reprendre aussi la déclaration du nouveau ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran. C'était dès hier soir, lors de son point désormais hebdomadaire sur la stratégie de lutte contre la Covid-19. On l'écoute.
Le taux d'incidence, qui compte, vous le savez, le nombre de nouvelles contaminations par le virus par semaine, est en hausse constante. Le taux de reproduction du virus, ce facteur R, reste au-dessus de 1. C'est un indicateur qui montre la vitesse de circulation du virus, qui est un indicateur de l'évolution de l'épidémie. C'est le nombre de personnes qu'une personne malade va contaminer la semaine suivante. Ce que vous voyez sur ce graphe, c'est qu'il y a plusieurs méthodes pour évaluer le facteur R, selon les admissions aux urgences, selon les appels à SOS médecins ou selon le nombre de diagnostics réalisés par test PCR, mais ils peuvent varier, mais ils sont constamment au-dessus de 1. Ils sont peu au-dessus de 1, ces facteurs R, mais il le reste. Peu au-dessus de 1, ça veut dire que si nous réalisons encore quelques efforts, et si nous adoptons les bonnes mesures là où c'est nécessaire, nous pouvons le faire baisser en dessous de 1, et ainsi réduire enfin la circulation du virus. Nous l'avons déjà fait collectivement au printemps dernier.
Didier Blanchet, nous sommes 60 millions de sélectionneurs de football, on le sait, chaque fois qu'il y a une Coupe du Monde, mais nous sommes aussi 60 millions de statisticiens, d'économistes capables de lire le facteur R, la question du taux d'incidence et du taux de reproduction du virus, parce que depuis maintenant 6 mois, on est censé avoir appris très rapidement ce qu'il en est.
Oui, on a appris beaucoup de choses. Effectivement, la crise a été un accélérateur sur pas mal de sujets. Ce que je dirais qu'elle fait ressortir pour moi, c'est surtout le fait que voilà, les gens apprennent qu'il n'y a pas de chiffre idéal et que c'est compliqué de produire des chiffres et de produire des chiffres rapidement qui répondent bien aux questions qu'on se pose, surtout sur des phénomènes qui sont nouveaux, donc on n'avait pas pu anticiper. Si je prends le cas de l'INSEE, nous on s'est plutôt centré sur ce qu'on mesure bien, nous, c'était à la statistique des décès. On a essayé de l'accélérer pour qu'elle soit disponible que toutes les semaines au lieu de tous les mois.
Oui, ça veut dire que vous êtes obligé de changer de rythme.
Mais on a dû changer de rythme, effectivement. Ceci dit, cette statistique-là ne répond qu'à une partie des questions, parce que le sujet, c'est la morbidité et la façon dont cette morbidité progresse. Ça pose un problème pour la décision et pour le partage de la décision, dès lors que les chiffres sont soumis à doute. Et puis, il y a un gros sujet qui émerge beaucoup, alors pas seulement dans ce domaine-là, mais aussi dans le domaine de la statistique économique, qui est plutôt le mien, qui est celui de la comparabilité internationale des chiffres. Et parce que dans les différents pays, on procède de façon différente. Alors, sur les décès, c'est quand même quelque chose d'assez harmonisé, mais sur plein d'autres sujets, on voit que des écarts se creusent et on se demande à quoi ils correspondent.
Sans compter d'ailleurs que vous avez été obligé d'aller avoir recours à des bases de données qui ne sont pas les bases de données publiques habituelles pour pouvoir répondre plus rapidement, pour pouvoir dire par exemple combien de Français avaient quitté la capitale au moment du confinement. Ben, vous avez fait appel à la base de données d'un opérateur téléphonique comme Orange par exemple.
Oui, alors là, pour resituer un peu cet apport, faut peut-être que je dise deux mots sur quoi est basée d'habitude la statistique. Il y a en gros deux types de sources. Il y a les enquêtes qui sont des choses qu'on maîtrise complètement parce que là, on rédige le questionnaire et on a des protocoles très précis. Donc, par exemple, l'enquête emploi qui nous sert à mesurer le taux de chômage de façon comparable entre les différents pays, mais qui sont des opérations assez coûteuses à la fois pour nous et pour les unités qui sont interrogées, qu'il s'agisse des ménages et des entreprises. Et puis, notre autre grande source de données sont les données administratives. Là, effectivement, il n'y a pas de coût de collecte du point de vue des intéressés. C'est vraiment la base. Par exemple, toute la statistique sur les revenus, la façon dont on mesure les inégalités, comme c'est des données à granularité très fine, ça permet d'avoir des constats très précis. Mais c'est des données. Alors, dans le cas des enquêtes, elles ont été en partie impactées par la crise, en sens que la collecte Internet a pu continuer. Et on avait déjà pas mal progressé sur cette collecte Internet. Mais je pense, par exemple, dans le domaine entreprise, les petites entreprises continuent beaucoup à répondre par papier. Donc ça, ça avait été interrompu. Et puis d'autre part, une enquête comme l'enquête emploi, le premier passage, c'est un questionnaire qui dure à peu près une heure, ça se fait forcément face à face, ça se fait pas par courrier ni par internet, du moins en l'état. Donc on a dû interrompre. Pareil pour les relevés de prix qui se faisaient en magasin. Alors on avait commencé à mettre en place depuis le début de l'année l'utilisation des données de caisse, là, des grandes enseignes pour mesurer les prix. Donc on a pu se baser là-dessus, mais relever de prix en magasin, c'était devenu inopérant. Donc on s'est mis à mobiliser cette catégorie de données qu'on appelle les big data, celles qui sont issues de nos activités sur le web, etc. Et notamment, par exemple, les données de mobilité.
Béatrice Bougnol.
Oui, alors il y a la manière dont on collecte les données, dont on crée on bâtit les chiffres avec ces données-là, et puis il y a la manière dont on présente les chiffres. Nadia Maizy, bonsoir. Vous êtes donc mathématicienne. Quel regard vous portez sur la manière dont les chiffres nous sont présentés depuis maintenant 6 mois?
Alors, en pensant à l'émission cette semaine, je lisais Le Monde et je me suis dit que ça serait intéressant de partager en fait l'usage de tous ces chiffres qui sont communiqués et qui finalement sont communiqués aux citoyens. Donc je vais vous lire un tout petit extrait pour commenter un petit peu ce qu'on nous apprend dans Le Monde donc de lundi soir. L'Agence Santé publique France a fait état mardi de 10 008 nouvelles contaminations dues au coronavirus en 24 heures, soit près de 5 000 de plus que la veille, mais les chiffres du lundi sont souvent inférieurs à ceux du reste de la semaine. Le nombre de patients hospitalisés au cours des 7 derniers jours s'élève, selon elle, à 4244, ce qui fait 141 de plus que lundi. Parmi eux, 651 ont été admis en réanimation, soit 13 de plus que la veille. Donc là, ce qui est intéressant, c'est le relatif. Donc on compare à la veille, mais on nous explique que la veille
n'est pas le bon
chiffre. Singularité dans la semaine. D'accord ? Alors on continue. Le taux de positivité des tests est passé en 24 heures de 5,9% à 6,1%. Ok, mais on ne sait pas combien de gens sont testés et par rapport à la veille, y a-t-il eu plus de tests ou moins? On n'en sait rien. 61 nouveaux foyers d'infection ont été dénombrés, ce qui porte le total à 1031 clusters. Moi, je ne connais pas la définition d'un cluster. Alors, ça continue. Donc, 68 décès supplémentaires ont par ailleurs été recensés, ajoute Santé publique France, ce qui porte le bilan français à 31 416 morts depuis le début de l'épidémie. Le bilan de lundi était de 31 338 morts, soit 78 et non pas 68 de moins. Cette différence n'est pas expliquée à ce stade. Et je vous ai lu mot à mot ce que j'ai lu. Donc moi, ce qui me frappe depuis
en tant que mathématicienne
depuis le début de la crise, c'est que donc les chiffres produits par les agences de statistiques nous sont jetés en pâture de sorte que nous soyons noyés submergés et que en fait on crée une espèce d'ambiance anxiogène où l'information il n'y en a pas et où en fait le fond du problème n'est pas traité si on discute avec les médecins qui sont les maltraités, c'est-à-dire que on ne nous parle que des morts, des contaminés, on ne nous dit pas si il y aurait des mesures à prendre pour être en meilleure forme, pour faire face à ce virus. On est dans une comptabilité permanente et on mélange absolument tous les éléments.
En quoi, Alain Supiot, cela rejoint-il les réflexions que vous avez menées pendant de nombreuses années autour de cette question de la gouvernance par le nombre, ce que vient de dire Nadia Maizy à l'instant?
Eh bien, ce que vient de dire Nadia me paraît mériter vraiment d'être entendu. Ça illustre le fait que les opérations de quantification reposent toujours d'abord sur des opérations de qualification, ce qu'on appelle des conventions d'équivalence en statistique. Nous avons d'ailleurs la chance en France d'avoir eu des très grands historiens de la statistique, je pense au regretté Alain Desrosières qui a travaillé sur ces questions. Pour expliquer de façon très simple ce que c'est que ces opérations de qualification qui sont en amont de toute quantification, imaginez que vous ayez cueilli des pommes et que vous vous demandiez combien vous allez pouvoir en vendre au marché. Alors d'abord, il faut distinguer les pommes des poires. Et puis ensuite, ces pommes, il y en a qui sont vraiment très vertes, d'autres qui sont vraiment très très avancées et d'autres qui sont comestibles. Chaque pomme va passer devant vous en jugement. Et si vous êtes un vendeur peu scrupuleux, vous allez trouver que la pomme verte, finalement, est tout à fait comestible, de même que la pomme avariée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours, avant la production de nombres, alors il faut distinguer nombres et chiffres, ce qui n'a pas été fait depuis le début de nos discussions. Avant la production de nombres, il faut toujours s'interroger sur les conditions de cette production et les conventions d'équivalence qui ont permis la construction de cette représentation chiffrée de la réalité. Et le chiffre a cette puissance que n'ont pas les lettres, c'est ce qui permet cet effet de sidération, c'est qu'il ne se prête pas au même type d'interprétation, aux mêmes ressources herméneutiques, excusez-moi d'employer des mots un peu savants, et il apparaît comme une image vraie, fidèle, immédiate de la réalité.
Des évidences indiscutables.
Voilà, les statisticiens sérieux savent très bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et c'est évidemment la représentation quantifiée du réel est un outil puissant de compréhension de la société, mais ça suppose d'avoir dans le rapport avec cette image quantifiée la possibilité d'avoir le même type de débat contradictoire que ceux que l'on peut avoir vis-à-vis d'énoncés littéraires, je dirais.
Et cela, effectivement, ce n'est pas toujours le cas. On y reviendra dans un instant avec vous, Béatrice Bougnol.
Oui, lors de cette crise sanitaire qui donc n'est pas terminée à l'heure où on se parle, on a aussi beaucoup parlé des modèles, du travail des modélisateurs et donc d'une représentation, comme vous le disiez Alain Supiot, une représentation chiffrée du réel et presque de l'avenir aussi, puisque ces modèles étaient censés prédire aussi la manière, l'évolution en fait de l'épidémie. Nadia Maizy, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce travail de modélisation?
Alors, justement, les modèles travaillent sur les données. Et donc, dès lors qu'on comprend que les données sont des éléments extrêmement fragiles dans ce qu'ils représentent, on imagine bien qu'un modèle qui va être finalement une petite machine où on injecte des entrées et on récupère des résultats en sortie, suivant un paradigme ou un autre, ne pourront que s'appuyer sur des éléments qui eux-mêmes ne représentent pas exactement la réalité. Donc moi, quand on me parle de prévision et qu'on traite un phénomène qui est totalement inconnu, sur lequel on n'a pas de recul. Le seul recul qu'on aurait pu avoir aurait été celui qui soit fourni par des pays ayant expérimenté l'épidémie avant nous. Mais ces pays ne sont pas comparables. Il n'y a pas le même climat, il n'y a pas la même population, les mêmes gènes. Donc tout ça, quand on prétend qu'on va pouvoir prédire ce qui risque de se passer à travers des modèles mathématiques, on est dans la continuation de, je ne vais pas utiliser un terme trop fort, mais de la manipulation, on va dire, du citoyen.
Et pourtant, on y croit en tant que citoyen, parce que si on est citoyen et qu'on n'a pas ces connaissances que vous avez en tant que mathématicienne, Nadia Maizi, on se dit, ben voilà, les gens modélisent, ils ont des ordinateurs très puissants, ils ont des données qui leur sont fournies, donc on se dit, ben voilà. Alors on voit bien que les modèles ne sont pas les mêmes, que les résultats ne sont pas semblables, mais on se dit il faut bien faire confiance à quelqu'un dans un cas comme celui-ci.
Alors je vais vous donner un tout petit exemple de ce que nous, en tant que chercheurs, on a essayé de faire pendant la crise, puisqu'on est intéressé par les questions de climat et les questions d'énergie. On s'est demandé quel serait l'impact d'une société dans laquelle la situation qu'on était en train de vivre continuerait pour toujours. Donc une société covidée, c'est-à-dire une société confinée. Donc on a essayé de récupérer les données qu'on avait à ce moment-là pour traduire quel avait été le changement de comportement des gens. Comment voulez-vous calculer le nombre de kilomètres parcourus par les véhicules quand les statistiques qui sont fournies tous les ans ne sont pas encore sorties ? Bah, vous faites des choses comme par exemple vous utilisez une application qui s'appelle Mappy ou qui s'appelle Waze ou qui s'appelle Google Maps. Et vous regardez quels sont les déplacements que les gens ont eu l'intention de faire, puisqu'ils les consultent pour préparer leur voyage. Est-ce que vous voyez la nuance entre utiliser ce genre d'informations et reconstituer ensuite des kilomètres parcourus par des véhicules ? Donc tout le monde travaille comme ça, et il faut bien comprendre que nos modèles servent à éclairer. Ils ne servent pas à prescrire.
Mmh. Oui, c'est d'ailleurs la question que vous vous êtes posée à l'INSEE, Didier Blanchet. On sait par exemple que, on l'a vu dans un article récent du Monde, vous posez la question de savoir comment donner un prix INSEE à des services non marchands, par exemple, c'est-à-dire la police, les enseignants, etc., etc. Et vous avez dit, là, les agents de l'État ont constitué, ils doivent être payés alors que le service rendu était de moindre qualité, puisqu'ils étaient à distance, ils ne pouvaient pas rendre le service, etc. Vous avez dit, on va amputer de 25% la valeur des services publics. C'est comme ça qu'on va établir quelque chose. Mais ça, c'est un peu du doigt mouillé tout de même. Est-ce qu'on peut le reconnaître, Didier Blanchet, ou est-ce qu'au contraire, c'est comme ça qu'il faut faire parce qu'on n'a pas d'autre solution.
À ce stade, je reconnais effectivement qu'il y a une part de doigt mouillé. Alors, la façon dont les statistiques sont construites, donc c'est un processus progressif. C'est-à-dire, ce qu'on a dans un premier temps, c'est des données qui sont parcellaires, qui sont imprécises, et donc c'est là-dessus qu'on construit notre diagnostic conjoncturel. Ça, on appelle ça du nowcasting, prévoir le présent. On se dit que le présent, il n'y a pas besoin de le prévoir parce qu'il est là. Mais en fait, on ne sait pas tout sur le présent tout de suite. Donc,
oui, parce que les statistiques sont pas, les données sont pas encore toutes là.
Je parlais des sources administratives, les sources fiscales qui nous permettent de dire avec précision l'évolution de la distribution des revenus. C'est seulement un an après qu'on commence à bien pouvoir les expliquer. Il faut déjà le temps que les gens aient rempli leurs déclarations et puis ensuite que ça nous revienne. Donc là, on a donné une ampleur supplémentaire à cette incertitude transitoire, due au fait que une partie des sources qu'on utilise sur le court terme était inopérante. Donc il y a eu ce recours à ces données innovantes, type big data ou choses issues de l'activité des individus sur le web. Mais on l'a fait en pleine conscience que ça allait être des proxys. Alors maintenant, sur le cas des enseignants et de la fonction publique, c'est encore autre chose. Là, ce qu'on a mobilisé plutôt, c'est à partir des premiers résultats de notre enquête emploi, on a quand même de l'information sur si les gens étaient en télétravail ou pas, avec les garanties que nous offre cette enquête, qui est quand même une enquête très éprouvée et très stabilisée. Là où c'est plus difficile, c'est dans le cas des enseignants, parce que même en régime permanent, quantifier le temps de travail d'un enseignant, c'est pas quelque chose qui se mesure comme le temps de travail de quelqu'un qui se rend tous les jours du matin au soir.
Voilà, et donc vous êtes en train d'écouter le temps du débat, le temps du débat qui se pose la question de savoir justement comment on peut gouverner par les chiffres en temps de Covid avec nos trois invités. On vous retrouve dans un instant après avoir écouté bien des chiffres dits par une très belle voix, celle de Juliette Gréco.
Une valse à trois temps, j'ai encore le temps, j'ai encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour, mais comme c'est charmant, il passe à quatre temps. C'est beaucoup moins dansant.
France Culture.
C'est beaucoup moins dansant, mais plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant. blanc est beaucoup plus charmant qu'une vache à 3 ans, une vache à 20 ans, une vache à 100 ans, une vache à 100 ans, une vache à 100 ans, à chaque carrefour dans Paris de l'amour, après j'ai tout printemps, une vache à 1000 ans.
Le temps du débat.
Une vache à 1000 ans. Une vache à 1000 ans, le patient est 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans, une vache à 1000 ans. Une vache à 1000 ans. Une vache à 1000 ans, après sur nos amants, 300 ans, on n'a pas le temps de bâtir un roman. La 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 la.
Une valse à mille temps, vous écoutez Le Temps du Débat et nous sommes avec notre partenaire et amie Béatrice Bougnol pour pouvoir continuer cette discussion sur les chiffres et les nombres.
Oui, nous venons de discuter avec Nadia Maizy et Didier Blanchet de la limite parfois des statistiques ou en tout cas du fait qu'elles ne sont qu'une représentation du réel et que bien sûr il y a cette limite dans la prédiction qu'elles pourraient permettre. Alain Supio, dans votre intervention tout à l'heure, vous évoquiez la capacité critique qui est nécessaire vis-à-vis de ces chiffres. Dans l'interview que nous avons publiée dans La Croix ce matin, vous soulignez effectivement l'importance quand même de cet outil de quantification qui a par exemple permis de mesurer les effets pathogènes de certaines organisations du travail. Donc il ne s'agit pas bien sûr de se passer de statistiques, voire même de modèles mathématiques, mais de pouvoir les critiquer. Dites-vous, comment peut-on mener une telle critique et comment, en tant que citoyen, on peut avoir connaissance des critères donc d'établissement de ces chiffres?
Alors, il ne faut pas confondre là gouvernement et gouvernance par les nombres. L'idée de gouvernement par les nombres, je pense que qui a précédé la gouvernance par les nombres actuels, je crois que l'expérience en vraie grandeur la plus considérable, ça a été l'expérience soviétique du Gosplan. Il y avait un appareil de quantification gigantesque à partir duquel les dirigeants politiques prenaient décision pour faire des calculs d'utilité collective. Nous sommes encore les héritiers de cette façon de faire parce que, par exemple, le classement de Shanghai des universités qui sert à piloter la politique de la recherche est un sous-produit direct de la planification soviétique. Avec la gouvernance, c'est différent. C'est-à-dire, ce qui nous a été décrit là tout à l'heure sur la statistique et le métier des statisticiens tel qu'il s'est construit depuis bientôt deux siècles, c'était de donner une image de ce qui est. Le nouvel emploi qui se passe avec la gouvernance, c'est de faire des chiffres les instruments de pilotage de l'action humaine ou plutôt de la réaction. C'est ce qui différencie, si vous voulez, une image statistique de ce qu'on appelle un indicateur qui est destiné à piloter l'action. Alors, il faut avoir ça en tête parce que le type de critique qu'on peut avoir dans les deux cas n'est pas du même ordre. Sur la construction des représentations statistiques, si on prend l'exemple, par exemple, des chiffres du chômage qui vient d'être cité, il y a des études très importantes qui ont été faites, notamment par Robert Salet, sur toute la généalogie de la construction de cette catégorie chômeur qui n'allait pas de soi parce que, justement, il y avait des opérations de qualification en amont. En revanche, dès lors qu'on fait d'un indicateur le pilote d'évaluation de l'action, là, c'est ça la gouvernance par les nombres, et on se condamne à un système où chacun réagit à des images chiffrées sans que plus personne ne réfléchisse. Dans ce type de système, la critique devient extrêmement difficile. Et je pense que là, c'est la critique beaucoup plus profonde. Nous avons besoin de bonnes statistiques, c'est indiscutable, mais l'idée que nous pourrions nous laisser guider par des indicateurs et mettre la société en pilotage automatique, cette idée-là est folle.
Et cela, Nadia Maizy, il faut bien le dire, c'est une idée qui est assez courante aujourd'hui, nécessiterait au minimum, et c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, d'avoir un langage commun. Or, nous n'avons pas tous les connaissances de statisticiens, de mathématiciennes, d'analystes, professeurs au Collège de France qui est Alain Supio, pour pouvoir comprendre simplement les chiffres qui nous sont donnés.
Oui, tout à l'heure, vous nous faisiez écouter l'intervention de notre ministre qui parlait de taux d'incidence et de facteur R. Et il a lui-même dit que le taux d'incidence, il y avait trois définitions possibles. Donc ce sont des éléments qui sont brandis. Il faut se concentrer un peu pour savoir quand on est scientifique à quoi ça correspond. Mais j'ose pas imaginer ce que le citoyen peut associés en fait à ce type d'éléments. Et c'est dans beaucoup de domaines en réalité que les indicateurs sont brandis. En particulier, moi, je travaille dans le domaine du climat. Et dans le domaine du climat, on vous parle pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre d'un grand nombre d'éléments. On peut compter en particules par million. On peut compter en forçage radiatif, ce sont des watts par mètre carré. On peut compter en budget carbone. On peut dire qu'il y a des puits de carbone qui vont compenser les émissions. Et donc ça nous permet d'avoir une neutralité parce qu'il y a des émissions qui deviennent négatives. Et au niveau de la négociation, tout ça, ça va avoir un impact extraordinaire parce que les gens qui sont autour des tables ne réfléchissent pas de la même manière. Ils vont prendre des années de référence différentes. La Chine prend 1990 et raisonne par rapport à son scénario de base, tandis que les États-Unis vont prendre les années 2000 et vont raisonner en scénario absolu. Donc tout ça, je pense que c'est une volonté aussi de désinformer.
Oui, c'est un des risques en tous les cas, c'est de ne pas être au courant, de ne pas permettre à chacun de se faire son opinion d'une certaine façon.
De ne pas pouvoir comparer en fait, et de se mettre à brandir en mathématiques, hein, on est tout le temps en train d'hurler sur nos élèves quand ils comparent des choux et des carottes. Mm-hmm. Mais dans la vie, la vraie vie, c'est toute la journée, qu'à tous les niveaux de gouvernance, c'est ce qui est pratiqué.
On peut écouter d'ailleurs la critique faite par la maire de Marseille, Michel Rubirola, aujourd'hui, donc sur BFM Télé. Et c'était à propos de la déclaration dont vous parliez à l'instant même d'Olivier Véran.
Il faut que l'État revoie sa feuille de route, qu'il réfléchisse. Le R0 diminue, il est en dessous de 1 depuis 4 jours. Le nombre de nouveaux cas baisse chez les moins de 60 ans. Voilà, donc il est bien sûr élevé à 1,23 chez les plus de 60 ans, mais il était à 1,7, il est passé à 1,5 et maintenant il est à 1,23. Donc vous voyez que Marseille fait des efforts et que ça marche. Et en fait, finalement, qu'est-ce qu'on voit? On sanctionne des lieux où les jeunes fréquentent, et or, le R0 chez les jeunes a baissé.
Voilà, le R0 chez les jeunes ABC, on est à 1,23, on est tout à fait au courant de ce qui se passe grâce à la maire, comme d'ailleurs au ministre qui était interviewé précédemment, Béatrice Bougnol.
Oui, Didier Blanchet, donc on discute là de la manière de présenter les chiffres, en quoi elle peut être effectivement, selon Nadia Maizy, anxiogène et peut-être un outil ou en tout cas une façon de désinformer. Est-ce qu'à l'INSEE, vous avez sans doute réfléchi à vos méthodes de statistiques, avant même cette présentation qui en sera faite par d'autres que vous, au vu de cette crise sanitaire, de ces débats effectivement un peu hermétiques autour des chiffres? Est-ce que vous pensez que à l'issue de cette crise, les méthodes s'en trouveront changées?
Alors, d'une part, réfléchir sur nos méthodes, en fait, c'est ce qu'on fait en permanence. Donc, justement, par rapport à cette demande d'immédiateté de chiffres qui tombent en permanence et tous les jours, notre démarche, c'est plutôt de réfléchir sur les concepts, les conventions, etc., pour progressivement construire des choses qui, notamment, aient cette propriété de comparabilité entre pays et à travers le temps. Donc ça a débouché sur des conventions telles que le chômage au sens du BIT, bon, qui est critiqué, et du coup on a développé des indicateurs complémentaires, mais il y a tout un travail réflexif qui est fait en amont de la construction des statistiques. Les points que j'évoquais tout à l'heure sont plutôt sur les sources de méthodes. Il y a la question des concepts, et puis ensuite il y a les outils avec lesquels on mesure les concepts en question. Mm-hmm. Donc là, toute la problématique des big data, c'est le fait plutôt... Alors effectivement, on a des données à haute fréquence qui donnent l'impression que voilà, il n'y a plus qu'à se baisser pour ramasser l'information, et puis en temps réel tout ce qui se passe. En fait, justement, on voit bien qu'il est beaucoup plus compliqué que ça pour traduire ça dans des termes qui, à la fin, reflèteront vraiment ce qui sera dans le porte-monnaie des ménages ou des entreprises. C'est pas juste avec des satellites qui surveillent la fumée qui sort des usines, là, que vous pouvez dire quel est le niveau d'activité en France et si le déficit public va se creuser ou pas. Donc, ces méthodes-là, ces nouvelles sources de données, on va sûrement les mobiliser davantage qu'on ne faisait, mais avec quand même précaution, quoi. Je veux dire, elles ont joué le rôle de roue de secours, mais la roue de secours, vous ne roulez pas avec indéfiniment. Donc on aura besoin un jour ou l'autre, enfin même assez rapidement, de revenir à nos sources traditionnelles. Alors maintenant, par rapport au débat public, il y a un enjeu effectivement pour nous assez important, qui est un peu travaillé à la la littératie statistique, la compréhension que les gens ont des chiffres. Là, il faut essayer de développer des actions un peu à tous les niveaux. Donc nous, on essaye un peu de moderniser nos façons de communiquer sur les choses, de rendre ça plus simple, plus accessible. Mais on est aussi pris dans un dilemme parce qu'il y a à la fois une demande de simplicité. On voudra voir juste 2-3 chiffres parce que ce sera plus simple à comprendre comme ça. Et puis d'un autre côté, on veut avoir toute l'information qui nous décrit tout. Et donc, on ne peut pas répondre aux deux besoins à la fois. Donc, il faut sans arrêt balancer de l'un à l'autre.
Alain Supiot, c'est une des questions qui se posent. C'est comment faire en sorte que les citoyens que nous sommes et qui n'ont pas le temps, par exemple, d'un professionnel, statisticien, mathématicien, pour pouvoir analyser, et la connaissance, analyser les données très précisément, puissent donner leurs mots, dire leurs mots sur ces questions justement de gestion par les nombres de nos vies et de nos sociétés. Il y a ce qu'on, je crois, on a surnommé le stat-activisme, qui est de se dire, ben on va reprendre la main sur ces données, on va connaître comment elles sont composées, on va essayer de travailler avec. Est-ce que vous pensez que c'est une solution ou est-ce que c'était un leurre?
Non, je pense qu'il faut mettre en relation, si vous voulez, les tableaux chiffrés sont une image qu'on se donne de la réalité. D'ailleurs, l'invention des tableaux comptables, qui est la première idée d'une représentation du monde par des chiffres, et on disait qu'il faut que ce soit une image fidèle, c'est même l'expression qui est dans le code de commerce, apparaît en même temps que l'invention du tableau dans les beaux-arts. Donc vous avez l'idée de cette image de la société. Et un autre système de représentation, c'est la représentation démocratique. Donc, il faut mettre cette représentation chiffrée sous l'égide d'un débat démocratique. Si je prends la question des normes comptables, elle a été totalement déléguée et abandonnée par le politique à des fondations privées, parce qu'on a considéré que c'était technique, puisque c'était des chiffres. Or, en réalité, ce sont des questions hautement politiques. Alors, je peux vous donner un exemple, justement, des effets désastreux de pilotage par les nombres, tel qu'il est pratiqué parfois avec la meilleure volonté du monde. Il y a un indicateur qui a été construit justement pour s'opposer au monopole du PIB, c'est l'indicateur du développement humain. Alors, parmi les composants de cet indicateur, il y a le taux de scolarité. Et on a fait de la progression de cet indicateur une condition du soutien financier d'un certain nombre de pays pauvres. Et j'ai le témoignage d'un ami malien qui a été ministre là-bas, qui m'expliquait comment ça se passait en disant, d'abord, il y avait eu la Banque mondiale qui était passée, le FMI était passé 20 ans avant en disant « il faut supprimer vos instituteurs, ça coûte trop cher ». Et puis 20 ans après, la Banque mondiale vient en disant « mais il faut augmenter le taux de scolarité ». Bon. C'est évidemment, ils sont habitués à ce type d'absurdité. Bon, ils disent comment on fait, puisque on nous a dit de licencier les instituteurs. Alors, la solution a été simple. On construit d'immenses hangars où on met des masses de gamins face à des gens pas formés. Dans le pire des cas, c'était plutôt des prédicateurs que des instituteurs. Et ces enfants sont à la fois arrachés au système d'éducation traditionnelle et ils n'apprennent rien. Donc, l'indicateur, en revanche, va progresser, puisqu'on va compter que ces enfants sont désormais scolarisés. Donc, vous avez à partir de ce moment-là un divorce entre la représentation chiffrée et la réalité. Et la représentation chiffrée s'améliore, la réalité se dégrade, et sans qu'il y ait à faire appel, j'allais dire, à une mauvaise volonté, une manipulation des chiffres qui était évoquée tout à l'heure par Nadia Maizi, qui peut exister, bien entendu. Mais là, le mal, je dirais, est plus profond, parce que ça part d'un bon cœur.
Oui, Nadia Maizi, d'ailleurs, une des questions, c'est comment la critique qu'on peut porter à ces chiffres, tels que vous l'avez dit depuis le début de cette émission, et on a très bien compris sur quoi elle reposait, eh bien, ne va pas faire en sorte qu'il y ait... un complotisme énorme qui disent que chaque fois qu'on dit un chiffre, eh bien, vous le connaissez puisque vous travaillez au GIEC, eh bien, on conteste ce chiffre, il a été mal établi, ils ont mal travaillé, etc., etc.
Oui, c'est bien pour ça qu'il faut être très prudent et quand on utilise des indicateurs et qu'on est au niveau du politique, je pense que c'est extrêmement dangereux. Ce sont les tendances qui sont importantes et on n'y revient pas assez souvent. Pour revenir sur la crise du Covid, aujourd'hui, donc, ces deux indicateurs, incidence, R0, masquent le discours qu'il y avait il n'y a pas si longtemps, où on nous disait qu'il fallait qu'il y ait un taux de contamination de plus de 60% de la population pour qu'on soit sorti d'affaire. Et ça, ça va dans le sens inverse. Donc le problème, c'est que effectivement, ça jette le discrédit sur les personnes qui manipulent ces éléments sans y prendre garde. Et ça favorise effectivement la remise en cause de la science comme étant le support d'un discours qui finalement ne fait que masquer une réalité qui serait tout autre.
Béatrice Bougnol.
Alors est-ce qu'un des moyens de pallier cette méfiance, ce serait que les citoyens puissent s'emparer un peu de ces données, c'est-à-dire puissent finalement organiser des collectes, comme certaines associations d'ailleurs le font, dans des domaines précis. Et est-ce qu'on peut imaginer des ponts entre ces collectes collaboratives, on va dire, de données et des institutions comme l'INSEE, Didier Blanchet?
Tout est envisageable en matière de coopération. On a des instances qui permettent de faire remonter. On a un Conseil national de l'information statistique. Alors c'est vrai qu'il réunit plutôt des gens qui sont du domaine, mais c'est par ce biais-là que les syndicats, par exemple, peuvent faire remonter de la revendication. Et de toute manière, on est les premiers bien placés pour bien voir que les chiffres qu'on produit ne satisfont pas forcément, je veux dire, sur la mesure du pouvoir d'achat. On est régulièrement interpellés. C'est un sujet qu'il faut affronter. On peut pas non plus dire, voilà, tout ce qui compte, c'est le ressenti. L'important, c'est ce que les gens pensent. C'est ce qu'on mesure, ça compte pas. Parce que la statistique, c'est aussi fait pour objectiver les choses. Donc on ne peut pas se fier juste à notre mémoire personnelle de ce qu'était le prix de la baguette de pain il y a 20 ans, parce que le résultat risque d'être assez surprenant. Mais en même temps, s'il y a des écarts entre ce ressenti et ce qu'on mesure, il faut qu'on essaye de diagnostiquer, d'expliquer d'où il vient. Et éventuellement, si on constate qu'il traduit vraiment le fait que nos chiffres passent à côté d'une partie de la réalité, ben c'est là qu'on développe les indicateurs complémentaires. Mais avec le problème que je vous disais, c'est-à-dire que du coup, on est amené à multiplier les indicateurs, et ça conduit à des messages trop compliqués. Les gens, après, réclament de la simplification à nouveau. Ça, c'est un mouvement sans fin.
Merci, en tous les cas, à tous les trois. Merci à vous, Didier Blanchet. Je rappelle que vous êtes économiste, directeur des études et synthèse économique à l'INSEE. Merci beaucoup, Nadia Maizi, d'avoir été avec nous. Vous êtes mathématicienne, membre du GIEC, directrice du Centre de mathématiques appliquées de Mines Paris Tech. Et merci à vous, Alain Supiot. Vous êtes professeur émérite au Collège de France. C'était la chaire État social et mondialisation. Et vous êtes auteur, justement, d'un livre qui vient de reparaître en poche, Gouverné par le nombre. Merci donc également à notre partenaire et à vous-même, Béatrice Bougnol. On peut retrouver l'entretien que vous avez réalisé avec Alain Supiot dans la Croix d'aujourd'hui. C'était le temps du débat. Demain, le temps du débat se portera sur la question de la conversation mondiale. Vous le savez, le vendredi, une émission particulière, la conversation mondiale, c'est-à-dire on fait discuter deux intellectuels, chercheurs ou artistes autour d'un cas particulier. Et comme demain, à partir de demain, un programme spécial Paris-Beyrouth 24 heures pour le Liban sera proposé par France Culture et par l'Institut du Monde Arabe, eh bien nous poserons la question qui parle au nom du Liban avec l'écrivaine libanaise Joumana Haddad, autrice notamment du Livre des Reines chez Actes Sud, et la cinéaste et réalisatrice franco-libanaise Danielle Arbid. Notamment son dernier film, c'est Passion Simple. C'était le temps du débat. Antoine Tricot, Hugo Boursier, Fanny Richer, Rémi Baille, Iman Gilles et à la technique aujourd'hui, Édouard Rubinstein. Alexandre Manzanares était avec nous à la réalisation.